Zed. I know you've seen my life. You've seen a lot of things in your life. Got you feeling like this can't be right. But I won't hurt you. I'm down for you, baby. Check out the icon as well and see March 30th, you see. Show your love can be. Big selector come from out of town, you see. Let it be. May the 11th, you see. Mother's Day weekend, made up on a dance day. But I believe it. Lot of surprises for the ladies, you see.
Trust.
2024, you see. Got a good year for the items, see. I won't stop till you get it right. All the trust.
Welcome to the December edition of Labor Radio here on CKUT 90.3 FM. This is always your co-host, Mustafa Henaway, joined with me,
Stefan Doucet. Check us out every third Thursday of the month between 5 and 6 p.m. here on CKUT. You can also find the episodes archived at ckut.ca. And you can find links to previous shows on our Facebook page, Labor Radio. We're also on the Labor Radio Podcast Network, where you can find other labor-related podcasts from around the world. So you can tell that I'm home with my sick kid. And so that's going to be part of the background on this episode.
And I'm wearing an ill-fitted Christmas pajama that you can't see because this is radio. Thank God.
On today's show, we have Yvan Perrier. He's a professor at the Cégep du Vieux-Montréal and a former chargé de cours at the UCO in Outaouais in industrial relations. So he has been writing a bunch on Presse-toi à gauche, almost daily, sometimes more than daily. on the common front. So that's going to be the subject of our conversation, unsurprisingly, today. I should say not just common front, but the whole public sector negotiations. Interviews in French, also unsurprisingly, because this is mostly happening in the French media and French trade unions and so on. But hope you enjoy the interview.
It was a really special interview because it's not just about the common front currently, but also its evolution, sort of the history, the dynamics of negotiation, but also the dynamics of the Legault government today. So it was really a great interview. I think we were just talking about this, but I think are presently surprised by the level of militancy and also steadfastness of the public sector unions in terms of holding out this long. I think even between the Legault government and I think a lot of people in the public didn't think that we would see an unlimited teacher strike for going on 4 weeks now with the FAE. And also now that negotiations are completely deadlocked, that starting in the new year, it will be an unlimited general strike across the entire public sector. That doesn't mean that there will be negotiations between now and then, but I think we're really seeing sort of this escalation and also now real calls for public support. I know people are busy with the holidays, but there's a demonstration tonight, a popular demonstration in solidarity with the public sector at 6 p.m. at Barry UQAM. Also tomorrow at Legault's office on Sherbrooke and McGill College at noon, there's a demonstration being called for to save our public education system. So we're really seeing this momentum around in support of the common front. These past days, but obviously since the beginning of the strike. But I think we're heading into a new year that's going to be one of, I think where it seems like it's not going away, and it seems like the government might not be able to even pursue a special law to get them to go back to work.
Yeah, definitely the question of the special law is up in the air. And obviously you're starting to hear more and more about the possibility of it. And we didn't get into it too much with Yvan Perrier. But that will be a dynamic going forward as the strike extends into the new year for sure. So I think maybe we'll leave it there because the interview is quite long. It's almost 45 minutes. And although we could, I'm sure, spend more time introducing the subject and so on, we'll leave you with Yvan Perrier, who does like really a very good job, I think, of describing the sort of general context of labor around this and some of the history too. So thank you so much for listening to Labor Radio. Once again, 90.3 FM on CKUT. And here's our interview with Yvan Perrier.
Accepter des bonnes conditions qui te fait comprendre où une brèle font situation. Avec sa forme une bonne planification. Qu'on y a pour sujet, yo, c'est destruction. Et puis que d'éléments changeants, c'est comme le vent qui change de direction. Conditionnés son bagage de tout temps, qu'il y ait situation à grand mouvement. Y'a mon qui dit, moi prends des vents, ma travail pour bel enterrement. Moi y'a ouvert, j'ai gardé temps, pas crié dans. Il y en a d'autres pourtant, me faisant des compliments, sans ce gêne qui dit en passant. Là-bas, coucou, de toutes ces bagages changeants, essayez ban mon petit explication. Ak sa m'a protégé vie m'en passant. présent tu es le grand gérant. Si me pas trompé, il fut un temps où t'es le plus loin des collaborateurs. Et laisse à moi t'es toujours un petit chanteur. Pour monde qui gagne plus de devant son seigneur. Que monde qui dit moi prends devant ma travail pour bel enterrement. Moi y'a ouvert jeune garde tant pas grillé dans. Il y en a d'autres pourtant en me faisant des compliments. Sans se gêner que dit en passant. La bagou comment gagne monde qui dit moi prends devant ma travail pour bel enterrement. Moi y'a ouvert jeune garde tant pas grillé dans. Il y en a d'autres pourtant en me faisant des compliments. Sans se gêner que dit en passant, la bagou.
Donc, on est en entrevue cet après-midi avec Yvan Perrier. Il est professeur de sciences politiques au Cégep du Vieux-Montréal. Et jusqu'à tout récemment, il était chargé de cours en relations industrielles à l'Université du Québec en Outaouais. Aujourd'hui, on va parler du sujet du jour, là, vraiment la négociation du secteur public ici au Québec. Il a écrit énormément sur le sujet dans les semaines et les mois qui passent, là, mais si vous allez sur le site de Presse-toi à gauche, vous allez voir tous les articles qu'il a écrits sur le sujet. Fait qu'on est vraiment chanceux de l'avoir avec nous aujourd'hui. Bienvenue à l'émission.
Merci beaucoup, M. Doucet.
Bon, fait que commençons par peut-être... expliquer un peu ce qui se passe dans un contexte plus général, parce que c'est vrai que malgré la place que ça prend dans les nouvelles puis tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont pas clairs vraiment sur toutes sortes de différents sujets qui touchent à la négociation. Fait qu'on va commencer vraiment simple. Alors, peux-tu commencer juste par expliquer c'est qui négocie? Peut-être les tables sectorielles versus les tables centrales. Qui c'est qui négocie au gouvernement? Qui c'est qui négocie dans les syndicats? L'espèce de topo sur ce qu'il y a de plus général pour qu'on soit tous sur le pied d'égalité.
Écoute, la première chose que je dois dire, c'est que la négociation dans le secteur public et parapublic, c'est un phénomène quand même assez récent qui a commencé en 1964-1965. Avant ça, il n'y avait pas de négociation entre le gouvernement et les employés de l'État. Il y avait des négociations dans les hôpitaux et dans les écoles, mais les droits qu'on retrouvait à cette époque-là n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. De sorte que quand on parle de négociations dans le secteur public et parapublic, on peut recommencer ça. On peut faire remonter ça à 1964-65 et depuis, il y a eu 20 rondes de négociations. En ce moment, en 2022-2023, c'est la 20e ronde de négociations qui se déroule entre l'État et les salariés syndiqués des secteurs publics et parapublics. Aujourd'hui, on dénombre 600 000 salariés des secteurs publics et parapublics. Fonction publique, santé, éducation. Qui négocie? Où cela se négocie? Bon, les enjeux monétaire, c'est-à-dire le salarial, le régime de retraite, tout ce qui coûte de l'argent, ça se négocie à une table centrale. Table centrale qui n'est pas prévue dans la loi. Elle l'a déjà été, mais quand il y a eu une réforme du régime de négo en 1984-85, la table centrale est disparue et on l'a maintenue dans le but d'obtenir une convention négociée, ce qui n'a pas toujours été le cas depuis 1984-85. Et le reste, les enjeux concernant l'organisation du travail en santé, en éducation, etc., ça se déroule dans des tables sectorielles. Il y en a environ une cinquantaine. La négociation est chapeautée du côté du gouvernement par le secrétariat du Conseil du Trésor. C'est en ce moment la titulaire du poste de présidente du Conseil du Trésor, c'est Mme Sonia Lebel. Elle a devant elle 8 organisations syndicales, dont 4 sont regroupées en ce moment en front commun, la CSN, la CSQ, la FTQ et la PTS, et 4 autres TAM où on retrouve bon, les membres de la FIC, de la FAE, du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec et du Syndicat des fonctionnaires de la province de Québec. Alors, comme mise en perspective, c'est ce que je peux dire en ouverture.
Bon, mais je pense que ça met la table. Peut-être que on peut parler, avant de parler de vraiment de la négociation en cours, juste un petit profil historique parce que tu as écrit quand même pas mal là-dessus. Fait que je pense qu'on peut utiliser ça vraiment pour comprendre mieux ce qui se passe aujourd'hui. Fait que si on remonte dans le temps, comment est-ce qu'on voit les premiers fronts communs intersyndicaux se développer dans le secteur public? Puis y a-tu des histoires ou des expériences parallèles dans d'autres pays, dans d'autres industries qui pourraient expliquer comment est-ce que ça a eu lieu?
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la négociation dans le secteur public et parapublic au Québec, la façon qu'elle se déroule, c'est unique au monde. Pourquoi? Probablement parce qu'au Québec, il s'est passé un phénomène différent d'ailleurs qui a eu pour nom la Révolution tranquille. La Révolution tranquille, c'est quelque chose de très important au Québec parce que ça a eu une incidence à la fois sur la modernisation de l'administration publique et aussi sur la reconfiguration de deux services essentiels dans notre société, la santé et l'éducation. Quand la Révolution tranquille a surgi, c'est suite à l'élection du Parti libéral, et Jean Lesage promettait une modernisation de la fonction publique. Il y a eu une rencontre entre le gouvernement du Québec et, à l'époque, l'Association des fonctionnaires. Et l'Association des fonctionnaires a dit, « Monsieur Lesage, si vous voulez vraiment moderniser et valoriser l'administration publique, accordez-nous le droit à la syndicalisation. » Et c'est à ce moment-là que Jean Lesage a déclaré, « La reine ne négocie pas avec ses sujets. » Il faut comprendre une chose, là. Quand le gouvernement canadien, comme les provinces, voit le jour en 1867, une des premières lois qu'on vote, autant du côté fédéral que des provinces, c'est une loi sur ce qu'on appelait à l'époque le service civil, ce qui est devenu par la suite la fonction publique. Et dans le service civil, les conditions de travail et de rémunération étaient déterminées exclusivement par le pouvoir exécutif. Le Canada est un peu l'héritier de la Grande-Bretagne. En Angleterre, on a permis à un moment donné, dans le cadre de comités, qu'on discute ouvertement des conditions de travail et de rémunération des employés d'État. Au fédéral, on l'a fait aussi. Mais au Québec, bon, on avait le premier ministre Jean Lesage, qui avait été ministre des Affaires, à l'époque, on appelait ça le ministère des Affaires indiennes au fédéral. Il est arrivé au Québec avec une certaine conception de l'administration publique qui était prête à la moderniser, mais pas prête encore à accorder les droits syndicaux. Et tout ça s'est fait dans le cadre d'une campagne de mobilisation pour une réforme du Code du travail en 1964. C'est en 1964 et 1965 que les employés d'abord de la santé obtiennent le droit de grève. Ensuite, les enseignants, en 1965, eux autres aussi obtiennent le droit de grève. Et les fonctionnaires, sous réserve de certaines clauses, obtiennent aussi en 1965 un régime de libre contractualisation. Quand les négociations commencent en 1964-1965, ce sont des négociations extrêmement décentralisées. Et là, en 1967, il va se produire un événement dans le monde de l'éducation. Il va y avoir l'adoption par le gouvernement du Québec d'une loi spéciale. Et ensuite, en 1968, c'est probablement la première vraie grande négociation qui se déroule entre le gouvernement et les organisations syndicales et le ministre de la fonction publique, à l'époque Marcel Massé, qui a la responsabilité de coordonner les négociations, arrive avec une politique salariale prédéterminée à l'avance. Il n'a pas voulu la négocier. Et ça a un peu déstabilisé ou mis un peu en colère Marcel Pépin, qui était président de la CSN, qui a dit « Mais on ne peut pas ne pas négocier avec le gouvernement la masse salariale. » Et Marcel Pépin travaillait à cette époque-là sur plusieurs enjeux avec la FTQ, travaillait aussi avec ce qu'on appelait la CEQ à l'époque, et c'est Marcel Pépin qui a eu l'idée de vouloir généraliser au secteur public et parapublic une idée qui avait déjà été exploitée dans le monde de la construction entre la FTQ et la CSN, à savoir une idée de front commun. Et c'est en prévision justement de la négociation de 1971-72 que là, le premier front commun a vu le jour. Le front commun, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, au départ, adhésion et harmonisation au niveau des demandes, autant salariales que des régimes de retraite, etc. Ça voulait dire aussi un protocole de fonctionnement entre les organisations syndicales. C'est ça que c'était l'idée du front commun. À l'époque, c'était 210 000 salariés. Il adhérait aux mêmes revendications, il adoptait le même plan d'action. Et ensuite, il y en a eu d'autres, mais là, en tout cas, je vais arrêter ici là, pour cette période historique-là. Allez-y.
Ben, c'est quand même super bien expliqué. Ça paraît que ce n'est pas la première fois. Donc, ça nous explique un peu, je pense, pourquoi c'est si important au Québec, puis pourquoi aussi c'est si ignoré dans le reste du Canada. Puis je veux dire, pour les gens qui font du journalisme ou du travail syndical, qui essayent d'expliquer ça aux gens du reste du pays, là, je pense qu'on connaît la réponse. Là. Allez-y.
Oui, ben c'est ça, si tu permets. Au Québec, on a eu à reconfigurer le réseau scolaire et le réseau de la santé. Ces services-là étaient pris en charge par les communautés religieuses à l'époque. Et la rémunération était fondée aussi en grande partie sur la vocation. Les gens qui travaillaient pour le gouvernement du Québec, les écoles, les hôpitaux, etc., c'était des gens qui étaient sous-payés. Et c'est grâce à la campagne de syndicalisation des années 64 et 65 que ces gens-là sont parvenus à améliorer leurs conditions de vie et d'existence. Il y a eu des luttes avant, je pense aux infirmières de Sainte-Justine, je pense aussi dans la fin des années 50 à Hall, les infirmières, etc. Mais c'est vraiment à partir des années 64-65 que là, il commence à y avoir un redressement à l'avantage des salariés dans le secteur public et privé.
Absolument. Fait que, je pense qu'on a assez mis la table peut-être pour commencer à parler de ce qui est en cours maintenant, parce que ça vaut la peine quand même de passer du temps là-dessus. C'est historique. Je pense que tout le monde a vu passer les manchettes comme quoi c'était la plus grosse grève en Amérique du Nord, quelque chose comme ça.
Oh là là! Oh, ça, il faut nuancer ça. La plus grosse grève en Amérique du Nord a eu lieu le 14 octobre 1975. Elle a été organisée par le Congrès du travail du Canada contre les mesures Pierre-Éliott Trudeau. Il y avait 1 million de grévistes au Canada cette journée-là, 200 000 de plus que AT&T et 500 000 de plus que le Front commun actuel.
Absolument.
Point en fait, ça me fait plaisir de continuer.
Allons-y. Oui. Ben, c'est quand même historique. Donc, parlons de cette négociation. Fait que toi, tu écris au sujet de cette négo, puis tu l'analyses presque à chaque jour. Je dirais, les articles, là, ils sortent presque à chaque jour. Fait que moi, j'aimerais ça savoir. C'est quoi tes impressions, les grandes lignes, mettons, par rapport à... C'est quoi les grosses tendances de cette négo? Puis peut-être qu'une par une, on peut les décortiquer un petit peu plus, mais faire comme, tu sais, un portrait, là, je t'ai demandé de faire le portrait de 50 ans de négo, là, je te demande de faire le portrait de un an à peu près de négo, si possible. Nous dire, c'est quoi les gros changements qu'il y a eu, les grosses tendances, peut-être, selon toi?
Moi, je vois la négociation actuelle là, comme étant une négociation avec vraiment comme chef d'orchestre François Legault. François Legault, c'est un premier ministre qui gère les finances publiques en essayant de voir c'est quoi sa marge de manœuvre pour le développement économique. Et il essaye de s'organiser pour que le budget de fonctionnement général de l'administration publique ne dépasse pas un certain pourcentage de l'ensemble de l'enveloppe budgétaire. Il y a des gens qui peuvent s'imaginer qu'en ce moment, le gouvernement laisse aller les choses à la dérive, etc. Moi, ce n'est pas la lecture que je fais. Moi, j'ai plutôt l'impression que le gouvernement sait exactement où il veut arriver, exactement où il veut atterrir avec les ententes dans le secteur public et parapublic. Et il sait exactement combien il est prêt à injecter dans la masse salariale et la masse monétaire. Le problème, c'est le suivant. Est-ce qu'il va trouver quelqu'un du côté syndical pour être le premier à signer de sorte qu'il va pouvoir imposer et généraliser ensuite aux autres? Je pense, moi, qu'il est là en ce moment l'enjeu, c'est qu'il cherche à identifier depuis un an c'est qui l'organisation ou les premières organisations syndicales avec qui vont convenir d'une entente. C'est la deuxième négociation que le gouvernement Legault fait dans le secteur public et parapublic. La première s'est déroulée de 2020 à 2022. Elle a duré 2 ans. Puis rappelez-vous, au début de la pandémie, au mois de mars 2020, François Legault disait « Je voulais qu'à la fin du mois de mars, les conventions soient réglées. » Ça a pris 2 ans avant d'être réglé, parce que le gouvernement n'avait pas les liquidités pour payer les augmentations de salaire à ce moment-là. Donc, il les a étirées pendant 2 ans. Quand il a négocié la première fois, il y avait eu une entente de principe avec la FIC qui a été rejetée par l'instance de la FIC. La même pattern de règlement a été proposé à la FAE qui l'a accepté avec une clause remorque et c'est la FTQ qui l'a bonifié d'1% cette entente salariale-là. En ce moment, François Legault a devant lui 5 groupes qui veulent négocier. Il y a le Front commun, CSN, CSQ, FTQ, APTS et ensuite les 4 autres organisations indépendantes, la FAE, la FIC, le syndicat des fonctionnaires et le syndicat des professionnels. Moi, je pense qu'en ce moment, il essaye de tenter un règlement avec les enseignants de l'élémentaire et du secondaire pour ensuite voir ça va être quoi les marges de manœuvre qui vont rester, pour voir comment il va pouvoir bonifier auprès des infirmières, autant dans le secteur général qu'en santé mentale, puis ensuite le reste va être réglé. Moi, c'est la lecture que je fais à ce moment-ci. Je peux me tromper, mais au fur et à mesure que je regarde comment les événements se déroulent, je m'ajuste en conséquence, et c'est un peu comme ça que je lis la situation à ce moment-ci. Sauf que pour moi, ce qui est clair, c'est que jouer pour lui la franche négociation, ça ne rentre pas dans sa vision des choses. François Legault a une vision très affairiste de comment doivent se dérouler les négociations dans le secteur public et parapublic. C'est lui qui détermine le point d'aboutissement. Il met tout en œuvre pour l'atteindre. S'il est obligé de mettre un peu d'eau dans son vin, il va le faire, mais ça ne sera pas sur des choses essentielles qui vont sacrifier ses objectifs.
Ben, moi, ça me fait penser parce que tu avais soulevé plutôt le sage qui dit la reine n'en négocie pas. Nanana. Moi, je pense tout le temps que le gars, il dit le Manon qui négocie pas avec ses neveux et ses nièces. Tu sais, il y a comme. Peut-être. Ben, moi, je pense qu'il y a 2 choses là-dessus. Premièrement, ils se sont fait avoir en cours. Suite à la dernière négociation, comme quoi qu'il y avait négociation de mauvaise foi, négociation sur la place publique, puis tout ça. Puis je dirais que ça n'a pas changé ben, malgré ça, puis ça surprend personne, là. Mais Peux-tu élaborer sur la façon que ça négocie ou plutôt que ça négocie pas? Parce que je pense, c'est ça, c'est pas vraiment décrit dans les nouvelles. Je pense ceux qui suivent de près, ceux qui sont près des syndicats ou qui sont dedans, ils savent de quoi que ça, ils savent comment ça se passe aux tables, puis versus les nouvelles, puis tout ça. Mais je pense que ce point-là n'est pas vraiment soulevé dans les médias en général.
Bon, ce qu'il faut savoir, là, c'est comment tout ça est établi au départ. Les syndicats font leur cahier de demande. Du côté gouvernemental, on fait aussi le cahier d'offres. Du côté du gouvernemental, il y a le bureau du premier ministre qui est en cause, le bureau du secrétariat du Conseil du Trésor qui est en cause, le ministère des Finances, le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation. Ça se joue avec ces cinq personnes-là et certains de leurs sous-ministres. Et c'est eux autres qui arrivent avec les prévisions financières de l'État et qui disent c'est quoi les sommes qu'on dispose pour donner des augmentations. Puis là, tantôt, il y a peut-être quelque chose que j'aurais dû ajouter dans l'introduction, là. C'est que de 1964 à 1979, on a été dans un modèle, les travailleurs et les travailleuses contre l'État. Mais à partir de 1979 jusqu'à aujourd'hui, la logique structurante de la négo dans le secteur public et parapublic, c'est plus une logique l'État contre les travailleurs et les travailleuses. L'État qui veut récupérer sur les concessions qu'il a été obligé de faire. L'État qui met tout en œuvre pour contenir les coûts financiers, monétaires, salariaux dans le secteur public et parapublic. Il y a quelque chose qui s'est passé en 1982 dans les économies des pays capitalistes, ça a été une crise économique. Et cette crise économique-là s'est accompagnée d'une crise fiscale de l'État. Et écoutez, à l'époque, on a été dans un contexte où le taux de chômage était à la hauteur de 14,1%, les taux d'intérêt à 21%, puis l'inflation supérieure à 10%. Et là, il y a eu comme une vision selon laquelle la lutte prioritaire devait viser l'inflation au détriment du chômage. C'est dans ce contexte-là qu'il a commencé à y avoir de fortes compressions des salaires dans le secteur public et parapublic et des augmentations de salaires qui ne dépassaient pas 2 % par année. Mais là, ça fait 40 ans qu'on est dans ce modèle-là. Et là, aujourd'hui, ça explose. Parce que depuis les 40 dernières années, les employeurs ont voulu intensifier la cadence au niveau du travail, détériorer les conditions de travail dans l'organisation du travail, la composition de la classe, etc. Ils ont multiplié les statuts précaires à l'emploi, de sorte que les gens préfèrent quitter les postes qu'ils occupent, soit pour aller dans le privé ou se chercher des employeurs. On se retrouve avec un secteur public et parapublic fragilisé, avec des gens qui travaillent avec une rémunération qui ne concurrence pas ce qui est payé dans le secteur privé, etc. Alors là, moi, la lutte actuelle des salariés des secteurs publics et parapublics, un, je la vois comme une lutte principalement menée par des femmes sous-payées, sous-valorisées, sous-reconnues par rapport à leur qualification et à la valeur de leur qualification, travaillent dans des conditions extrêmement difficile. Quand François Legault dit qu'il veut davantage de souplesse et de flexibilité, ça fait depuis 1982 qu'on entend ce thème-là dans le secteur public et parapublic. Puis tu sais, des gens qui apprennent à dernière minute, ça va être quoi les cours qu'ils vont donner, qui sont obligés de faire des plans de cours, puis des gens que François Legault voudrait dans les hôpitaux pouvoir transférer d'une équipe volante à l'autre, etc. Ça, si c'est pas de la flexibilité, je me demande ce que c'est. Fait que je pense que, bon, la négociation, moi, j'ai avancé le concept de la négociation factice dans le secteur public et parapublic. Parce que le gouvernement sait exactement où il veut arriver, puis il sait qu'il dispose d'une chose pour le faire, c'est des lois spéciales. Sauf que là, il y a des décisions des tribunaux. Tu as fait allusion, j'imagine, tantôt à la décision du tribunal administratif qui blâme le ministre Dubé d'avoir imposé des primes salariales sans les avoir véritablement négociées lors de la dernière négociation. Oui. Il est condamné à une amende de 300 000 $ mais tu sais, c'est pas ça qui va freiner demain matin l'État dans sa volonté d'agir de manière unilatérale. C'est comme un risque calculé. Ils savent qu'ils s'exposent à un blâme, ils savent qu'ils s'exposent à un sérieux blâme, mais tu sais, ça se peut que tu aies un ministre qui soit assez fonceur et qui se dise « Moi, je m'en balance parce que ça va être à travers les budgets de mon ministère que je vais régler la note, mais en attendant, je vais faire ce que je veux. »
Absolument. Ben, parlons un peu de ce rapport de force-là. C'est un thème qui revient dans ton article qui était publié dans les bulletins de l'histoire politique, numéro spécial sur les 100 ans de la CSN. Là, dans cet article-là, tu fais un retour sur différentes éditions du Front commun, on va dire. Puis tu termines sur la question du rapport de force. Moi, ce que j'aimerais voir avec toi, c'est... C'est sûr que la question du rapport de force, elle revient même dans ces termes-là, dans les nouvelles en ce moment. Fait que c'est malgré que ce soit plus ou moins un concept qui fait allusion à la lutte de classe, qui n'est pas vraiment le thème préféré des médias de masse, là, ils sont obligés d'en parler. Fait qu'il y a des grosses grèves. Moi, quand je visite les lignes de piquetage, les gens sont vraiment motivés, puis c'est presque, je dirais, du jamais vu. Ils sont écœurés, sont plus capables. Fait que Legault et son gouvernement doivent quand même avoir une certaine vision qui ressemble à celle-là. Là. Je veux dire, ils constatent la réalité qui est celle du terrain. Ils vivent pas dans un monde parallèle. Là. Donc, comment tu vois la suite? Là, on est le 19 décembre, juste pour ceux qui vont écouter une date ultérieure. Peut-être qu'on va se tromper, là. Mais comment tu vois la suite des choses? Parce que là, on tombe dans le temps des fêtes, puis on a beaucoup fait allusion à cette période-là depuis quand même plus qu'un mois là, qu'on vise le temps des fêtes pour un règlement, etc. Mais là, c'est sûr que là, on commence à parler de janvier, puis même de plus loin que ça. Fait que pronostic?
OK. Good day. Bon, il y a deux choses que je vais dire. Là. Je vais revenir sur la question du rapport de force, puis je vais ensuite parler de c'est quoi une négociation. Je commence par la négociation. La négociation, dans le fond, c'est trois étapes. Un, quelles sont vos demandes? Deux, vous ai-je bien compris quand vous demandez telle chose? Et trois, voici l'offre finale. Tôt ou tard, on va arriver à ce moment où le gouvernement va dire aux organisations syndicales, ceci est mon offre finale. D'ici là, celui qui contrôle le calendrier de la négociation, c'est le gouvernement. Ceux qui peuvent influer sur le calendrier, ce sont les organisations syndicales. En menaçant d'exercer des moyens de pression ou en menaçant de déclencher la grève. Jusqu'à quel point le gouvernement est-il prêt à accepter des interruptions de services dans le secteur public et parapublic? Là est la question. Si le gouvernement est capable de vivre avec des journées de débrayage ponctuel, etc., le travail se récupère. Mais si on se retrouve dans une situation de grève générale illimitée, là, ça devient un peu plus risqué pour lui. C'est là que ça m'amène à parler de rapport de force. Oui, le concept de rapport de force, on le retrouve dans le vocabulaire marxiste, mais le premier à y avoir fait allusion, c'est un auteur de l'Antiquité grecque du nom de Polybe qu'il voyait dans un contexte militaire. Et le concept de rapport de force aussi, on le retrouve abondamment en sciences politiques comme en relations industrielles. C'est la capacité qu'une partie a d'imposer sa volonté à l'autre. C'est ça le rapport de force. Du côté du gouvernement, le rapport de force, à la limite, c'est l'invocation d'une loi spéciale. Du côté syndical, c'est la force du nombre. En ce moment, la force du nombre joue à l'avantage des organisations syndicales. Pourquoi? Un, la participation au vote de grève a donné des résultats historiquement élevés. On n'a jamais vu ça, des résultats supérieurs à 90 % aussi généralisés que ça dans le secteur public et privé. Mais surtout, la forte participation sur les lignes de piquetage. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. De sorte qu'il y a comme la reconnaissance d'une adhésion aux revendications du côté des membres. Autre élément aussi qui joue en faveur à ce moment-ci des salariés syndiqués dans ce qu'on appelle le rapport de force, ce sont les sondages d'opinion qui donne une opinion publique qui semble comprendre la situation des salariés syndiqués. Et ce n'est pas la première ronde de négociation où on voit ça, mais c'est la première où elle semble dire au gouvernement « il est temps que vous régliez ces problèmes-là ». Puis le gouvernement, ça fait depuis les années fin des années 1970 qu'il y a sous haute surveillance sa fiscalité, l'argent des finances publiques et les salaires qu'il verse à ses salariés. Puis là, rappelez-vous, hein, après la négo de 1979, ça a été des décrets de 82-83. Ensuite, 20 ans plus tard, on a eu d'autres décrets de 2003-2005 sous Jean Charest. En ce moment, Legault joue gros. Legault, je ne sais pas. Il est peut-être inspiré par Machiavel, puis il se dit, peu importe le chemin que j'emprunte aujourd'hui, c'est sur le résultat final qu'on va me juger. Mais moi, je pense qu'à jouer le jeu qu'il joue en ce moment, il va laisser de l'amertume dans la tête de plusieurs personnes. Puis la majorité électorale de Jean Charest, elle n'est pas là, elle n'existe pas. Jean Charest est au pouvoir, pas Jean Charest, excusez-moi, François Legault est au pouvoir parce qu'il sait qui a été élu à cause d'un système électoral uninominal à un tour avec une carte électorale qui l'avantage. Fait que partant de là, Legault, il sait qu'il joue gros et si jamais il persiste dans la voie de l'affrontement, le prix politique qu'il va avoir à payer risque d'être élevé.
No, just going back to the history, because what was special about the Common Front wasn't just the fact that it was a common front of the public sector workers, but also there was more of an overt political tendency as well to add a public demand to the strikes. But eventually that strategy had changed. I guess you're the expert, but my understanding is after the 80s, it was much more focused on not on the kind of the second front or public demands, but just for the public sector workers.
Oui. OK. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a tout au Québec, il y a eu la question, bon, des négos dans le secteur public et parapublic avec le Front commun. Et du côté de la CSN, il y a eu ce qu'on a appelé le deuxième front, des revendications portant sur des enjeux sociaux et sociétaux plus larges, dont certains ont été repris à l'occasion de certaines négos dans le secteur public et parapublic. Tantôt, quand je parlais d'une coupure dans la dynamique des luttes du côté du secteur public et parapublic, et je parlais de la période 1964 à 1979 et la période 1979 à aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, la grande coupure a été largement inspirée par l'adhésion de la classe dirigeante au néolibéralisme. Ça a eu quoi, ça, comme effet, l'adhésion au néolibéralisme? L'adhésion au néolibéralisme, ça a voulu dire la réduction de la taille de l'État, l'affaiblissement du mouvement syndical. Donc, une diminution de la prise en charge par la société des enjeux sociaux et sociétaux. Et ça, ça s'est répercuté sur le mouvement syndical parce qu'à partir des années 1982, le mouvement syndical s'est retrouvé sur la défensive, replié sur des luttes à caractère plus corporatiste parce qu'il était confronté à des coupures. La chance qu'on a eue au Québec dans ce contexte morose-là, ça a été la place qu'occupaient les femmes dans le secteur public et parapublic. Malgré l'offensive néolibérale antisociale, il y a eu des luttes féministes pour préserver des programmes sociaux, pour faire avancer la cause des femmes, et pas uniquement au niveau de l'égalité et de l'équité salariale, mais aussi au niveau de la prise en charge des questions femmes sur les lieux de travail. Alors oui, Mustapha, il y a eu à un moment donné, comme tu l'as bien résumé dans ta question, un déplacement de la revendication entre les premiers Fronts communs et ceux qui ont suivi à partir de 1982, mais tout ça prend sens dans un contexte où il y a une offensive écrasante. Moi, je l'ai vécu, le rouleau compresseur de 1982. J'ai perdu mon emploi à ce moment-là. Je peux te dire que les capacités de résistance n'étaient pas fortes. Et quand le gouvernement Lévesque a adopté sa kyrielle de loi spéciale 68, 70, 72, 105, 111, il nous restait plus tellement de tonus à la fin pour affronter la loi 111. Et ça a été l'occasion que le gouvernement a utilisée pour reformuler le régime de négo à son avantage. Et depuis 1985, moi, ma thèse, c'est qu'on négocie dans le cadre d'un régime de négociation factice. Mais là, aujourd'hui, on assiste à une recomposition des effectifs dans le secteur public et parapublic. Ce sont beaucoup de jeunes qu'on retrouve dans ces emplois-là et surtout des jeunes femmes autonomes, chefs de famille monoparentales qui n'arrivent pas avec les revenus qu'on leur donne pour leur emploi. Il y a aussi dans le secteur public et parapublic toute une catégorie de salariés qu'on traite comme de la sous-main-d'œuvre rémunérée, etc., qui elle aussi se retrouve dans une situation où il y a une pénurie de main-d'œuvre, des postes à combler et un taux d'inflation très élevé. Puis ces gens-là disent « c'est maintenant ou jamais que j'ai l'occasion de bonifier ma situation puis de l'améliorer ». Moi, la lutte actuelle, je la vois à la fois comme une lutte syndicale, salariale, mais aussi comme une lutte de reconnaissance, de la valorisation des titres d'emploi et surtout un traitement juste et équitable accordé aux femmes qui luttent pour faire leur place dans cette structure d'emploi des secteurs publics et parapublics pour obtenir un statut autre qu'un simple statut précaire. Puis dernier détail qu'il faut se dire, quand on regarde la lutte des enseignants et des enseignantes, bon, vous le savez, vous êtes dans le milieu scolaire, les gens dans le milieu scolaire s'endettent pour se qualifier. Et quand ils arrivent sur le marché du travail, ils ont à la fois leur loyer à payer, la nourriture, les vêtements, etc., mais ils traînent avec eux autres aussi leur dette étudiante. Puis ces gens-là ont fait ça pour se qualifier sur le marché du travail et l'employeur ne le reconnaît, l'employeur qui est le gouvernement du Québec ne veut même pas le reconnaître. Alors, c'est une lutte anti-exploitation pour une meilleure intégration sociale qui doit tenir compte des discriminations faites aux femmes.
Bon, ben, il y a plein de sujets qu'on n'a pas encore touchés. Peut-être que je vais juste te donner une liste de différents sujets, puis tu peux en choisir une couple, parce que il va falloir qu'on termine. Mais moi, je pense à plusieurs différents enjeux, là, puis je les avais notés, puis je voulais parler de ça. Tout dans le secteur de la santé, la post-pandémie, les interruptions de services, il y a eu des urgences de fermer faute de personnel. Il y a la privatisation qui est pas mal en effervescence là, dans le secteur de la santé. Puis c'est en train de piquer du monde qui travaille dans le réseau public. Il y a des listes d'attente qui n'en finissent plus. Ça, c'est pour la santé. Au niveau des profs, il y a aussi une crise du système éducatif au Québec, probablement moins importante, mais tout de même grave. Puis on le remarque aussi avec les profs qui, eux, sans fond de grève dans la FAE, du moins, persistent en grève générale illimitée maintenant dans leur 4e semaine. Donc, ça témoigne quand même du fait que c'est des gens qui, je pense, c'est sûr qu'ils se battent pour leur salaire, mais il y a clairement plus que ça derrière une lutte qui est si aiguë. Donc, je te donne, là, je te garoche toutes sortes de sujets. Juste pour une dernière question, quels sont les enjeux là-dedans qui viennent te chercher?
À peu près toutes, parce que on assiste en ce moment à un phénomène de centralisation puis de concentration des pouvoirs entre les mains des ministres et de la Santé et de l'Éducation. Le projet de loi 15, c'est un projet de loi qui vient jouer dans les conventions collectives, qui vient jouer dans les accréditations syndicales. C'est un projet de loi. Dès son adoption, le ministre de la Santé clamait à l'Assemblée nationale « La situation des patients dans les hôpitaux vient de changer. » Voyons donc, je veux dire, tu sais, quand tu regardes c'est quoi la situation actuelle dans les urgences, personne ne va me faire à croire, tu sais, que le projet de loi 15 est venu changer quelque chose à leur existence. Tu sais, c'est... Il y a un processus, comme tu le mentionnais, de privatisation en cours qui est extrêmement dangereux dans le système de santé. Les listes d'attente, effectivement, écoute, moi je suis passé l'été dernier par une opération dans le système de santé. Moi, je peux te dire une chose, jusqu'à l'opération, ça a été impeccable, irréprochable, mais après, pourri. OK? Et il y a des problèmes. Ce n'est pas nécessairement la mauvaise foi des gens qui travaillent, c'est les conditions dans lesquelles ces gens-là se retrouvent. Puis le gouvernement arrive avec une énième réforme en moins de 20 ans dans le réseau de la santé. C'est quelque chose, je veux dire, qui ne peut pas aider à consolider le secteur public en santé, etc. Dernier point, bon, les profs. Moi, je pense que tu as très bien mis le doigt sur un des problèmes. La composition de la classe. Moi, j'œuvre dans l'enseignement, j'enseigne au niveau collégial. La composition de la classe aujourd'hui n'est plus du tout la même qu'il y a 20 ans. Et si on veut pouvoir enseigner dans des conditions optimales, avec un rendement optimal aussi, on ne peut pas faire comme si ce ne sont que 30 élèves qu'on a dans la classe. Il y en a plusieurs qui ont des besoins particuliers. Puis c'est pas avec l'aide à la classe envisagé actuellement par le ministre Drainville que la solution va enfin régler le problème. Tu sais, c'est effectivement la 4e semaine de grève, je veux dire, des enseignants et des enseignantes du primaire et du secondaire affiliés à la FAE sans fonds de défense professionnelle. Pour moi, ça, là, ça exprime c'est quoi l'ensemble du problème que le gouvernement semble ne pas vouloir voir ou entendre. Il s'imagine, dès qu'il y a une personne qui a un poste, le problème est réglé. Tu sais, quand l'année scolaire a commencé cette année, le ministre Drainville, tu sais, bon, faisait la tournée des tribunes pour dire il manque 8000 enseignants, il manque 8000 titulaires dans les classes, etc. Ouais, aujourd'hui, il en manque 1000. Il y a 50 % des enseignants qui quittent dans les cinq premières années. Il y a un problème majeur, et ce problème-là, ça va prendre plus que juste la négociation d'une convention collective pour le résoudre, mais ça doit commencer aussi par la présente ronde de négociation. Et, en tout cas, moi, j'espère qu'il va y avoir un nouveau dépôt tout à l'heure. En tout cas, j'espère que ce dépôt-là va être beaucoup plus substantiel que ceux qui ont été présentés jusqu'à maintenant. Parce que jusqu'à maintenant, je veux dire, ça n'a fait quoi qu'alimenter le mouvement gréviste.
Bon, ben, sur ce, merci beaucoup d'être venu à l'émission. On apprécie beaucoup toute ton expérience et toute ta connaissance du sujet. j'encourage nos auditeurs et auditrices de regarder sur Presse-toi à gauche, la tribune de Yvan Perrier. On y trouve vraiment un sacré paquet d'informations. C'est comme presque quotidien en ce moment, donc c'est une bonne place pour alimenter ses connaissances au sujet de la négociation, puis ensuite sûrement sur d'autres sujets, là, mais c'est ça que c'est le principal en ce moment. Merci beaucoup, Yvan.
De rien. Merci beaucoup, M. Doucet. Merci beaucoup, Mustapha.
Merci beaucoup à toi, Ivan, aussi.
Los yanquis son grandullones, parecidos a gigantes, algunos como elefantes, pero no tienen corazones.
Los vietnamitas son pequeñitos, son pequeñitos, sí, pero con unos corazones, así de grandes, así, así de grandes, así.
Los yanquis tienen cañones y los tienen por millares y academias militares, pero no tienen corazones.
Los vietnamitas son pequeñitos, sí, pero con unos corazones así de grandes, así, así de grandes, así.
Los yanquis tienen aviones, tienen bombas y fusiles, y generales por miles, pero no tienen corazones.
Los vietnamitas son pequeñitos, sí, pero con unos corazones, así de grandes, así, así de grandes, así.
Los yanquis tienen montones de helicópteros guerreros, tienen barcos y morteros, pero no tienen corazones.
Los vietnamitas son pequeñitos, sí, pero con unos corazones, así de grandes, así, así de grandes, así.
Por eso en mil ocasiones lo suenan los vietnamitas, gentes que son pequeñitas, pero sí tienen corazones.
Los vietnamitas son pequeñitos, sí, pero con muchos corazones, así de grandes, así, así de grandes, así.
And that was our interview with Ivan Perrier, a teacher at the Cégep de Montréal, and really a sort of deep repository of knowledge on the public sector negotiations across the decades. I mean, he's involved in a lot of them, and he also has studied them quite deeply. I think his PhD was on the subject. Anyway, very lucky to have had him on to talk about it. That's our episode for this month.
And wishing everyone a happy holidays. And we'll see all of you in 2024 in an unlimited general strike.
As it should be. Okay, thanks so much for listening, everybody.
Have you ever wanted to work at CKUT? We are now hiring for a new full-time staff member. The Partnerships and Admin Coordinator is a full-time position responsible for the sale of on-air advertisements and co-presentation partnerships, as well as some administrative tasks. This is a permanent role at the heart of CKUT staff that ensures an essential source of revenue and flow of community connections that are vital for the station. It is ideal for a bilingual go-getter who knows the city well and has a passion for community projects. Help us spread the word. The deadline for applications is January 3rd. Please visit www.ckut.ca for more details.
On January 25th at 8 p.m., the Cinematheque Quebecoise presents Gash Rat. Gash Rat is Kelly, Tara, Chelsea, and Gabby. Gash Rat sets the record straight. Gash Rat remembers a lost Montreal. Gash Rat is a convergence of spirits deserving each other. Gash Rat is a rock band. Gash Rat is back for one concert, for one night only. Get your tickets now at cinematheque.qc.ca. Co-presented by the Cinematheque Quebecoise and CKUT. Good evening. It's 6 o'clock on Thursday, December 23rd, 2021. You're listening to Upstage, the show about theater on CKUT 90.3 FM and at CKUT.ca. I'm your host, Sarah DeA, recording from home yet again this pandemic December. I'm going to play for you again this evening A Christmas Carol, which we performed and recorded and edited last year. I hope you enjoy. Merry Christmas. Good evening. You are listening to Upstage on CKUT 90.3 FM and CKUT.ca, the show about theater on the radio, covering everything in Montreal, from drama to musicals to comedy to burlesque. I'm your host, Sarah DeA. It's Christmas Eve and our final show of 2020. And tonight I present to you, as a treat, an audio drama that will be familiar to your ears, but with a local retro take. A Christmas Carol by Charles Dickens. The Campbell Playhouse radio show in the United States presented this evergreen classic on December 24th, 1939, 81 years ago tonight. It actually became an annual tradition for the program. Legendary actor Lionel Barrymore reprised his role as Ebenezer Scrooge, and producer Orson Welles introduced the story.
There is, I think, in all America, nothing more eagerly awaited, more firmly rooted in the hearts of the radio family that numbers millions of this year.